Voilà, comme président de l'Institut, je vais ouvrir la séance, simplement pour souhaiter la bienvenue à Monseigneur de Quesel, mais comme la fois passée, je vais plutôt laisser la parole au titulaire du cours, Monsieur l'abbé Albert Vinel, pour présenter Monseigneur de Quesel.
Monseigneur, la plupart des personnes dans cet auditoire vous connaissent mieux que moi, étant bruxellois. Donc, Monseigneur de Quesel est évêque auxiliaire pour Bruxelles et il est également, et à ce titre, son apport sera d'autant plus intéressant ce soir, responsable de la commission liturgie dans la conférence épiscopale, tant du côté francophone que du côté néerlandophone. Je m'en voudrais d'être trop long sur votre curriculum vitae, Monseigneur, ce n'est pas votre style. Et je voudrais d'emblée faire le lien avec notre parcours liturgique. Et donc nous avions souhaité, et déjà un grand merci d'avoir accepté de prendre la parole, nous avions souhaité d'avoir un éclairage sur les sujets abordés, pas simplement d'un point de vue théorique, ni d'un point de vue pratico-pratique, des questions de terrain, mais également avoir l'éclairage d'évêques, de manière à ce que nous puissions d'une certaine manière participer à ce regard pastoral qui est spécifique à l'épiscopat sur cette tâche liturgique qui, comme on le sait, pour la conférence épiscopale belge, est une des grandes priorités du moment et sans doute depuis toujours et pour toujours.
Merci et bonsoir à vous tous et à vous toutes. Mon regard sera évidemment pastoral, ça c'est vrai, aussi un tout petit peu théologique. Je me suis préparé à une conférence théologico-pastorale, si je peux dire ça, sur le lien entre, et je dirais sur la dimension ecclésiale de la liturgie. Et donc je veux réfléchir avec vous sur l'importance de la liturgie et notamment l'Eucharistie. Pour l'Église, pour la vie de l'Église et aussi pour la façon dont on peut comprendre l'Église. Parce que je vais montrer ça dans mes réflexions, le lien intime, inséparable entre l'Église et l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église. En même temps, il ne faut jamais oublier aussi que c'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie. Il n'y a pas d'Eucharistie sans Église. Il n'y a pas d'Église sans Eucharistie non plus. Je voudrais commencer avec cette réflexion. Vous savez que la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, il ne faut quand même jamais oublier le Concile Vatican II, cette Constitution a été le premier texte, assez vite, que le Concile a approuvé et promulgué. C'était la première intervention du Concile sur la liturgie et la réforme liturgique. À première vue, c'est un peu étonnant. C'est étonnant parce que, comme vous le savez, le Concile Vatican II s'est occupé avant tout, c'était là aussi le sujet qui avait rassemblé les évêques et les pères de l'Église, surtout sur la question de l'Église. L'essence de l'Église, sa raison d'être, mais aussi sa présence dans notre monde, et en l'occurrence dans un monde en pleine mutation, un monde moderne, un monde de plus en plus laïcisé et sécularisé. C'était là la question centrale du Concile, la question de l'Église, avec les deux grandes constitutions, constitution dogmatique sur l'Église et constitution pastorale sur l'Église et sa présence dans le monde d'aujourd'hui, Gaudium et Spes. Lumen Gentium et Gaudium et Spes, les deux grandes constitutions du Concile sur l'Église. Donc, on pourrait s'étonner à première vue que le Concile a quand même commencé avec la question liturgique. Mais je pense, enfin, c'est mon idée, moi je suis convaincu que le Concile s'est occupé dès le début de la question de l'Église, précisément en commençant avec la question liturgique. vous voyez. Parce que dans le renouveau et la réforme de la liturgie, qui était nécessaire à ce moment-là, et encore toujours, donc dans cette question du renouveau et de la réforme de la liturgie, il s'agit finalement du renouveau et de la réforme de l'Église elle-même. On ne peut pas séparer les deux. D'ailleurs, le Concile le dit lui-même, c'est une parole très connue du Concile, la liturgie est la source et le sommet de toute activité, de toute vie dans l'Église. Donc, dans la célébration de la liturgie, et surtout, évidemment, dans l'Eucharistie, il y va de ce qu'est l'Église dans son être le plus profond. Donc, il faut toujours se rendre compte, quand on réfléchit sur la liturgie, quand on réfléchit sur le renouveau, la réforme liturgique, on réfléchit en même temps et inévitablement sur la question de l'Église. L'Église qui est peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Ils vont donc toujours ensemble, renouveau de l'Église et renouveau de la liturgie. Et donc la célébration de la liturgie, et surtout la célébration de l'Eucharistie, nous mène au cœur même de l'Église, de sa raison d'être et de sa mission dans le monde. Et pour commencer, donc, je vais montrer cela, que les deux vont toujours ensemble, la question de l'Église et la question de l'Eucharistie. La liturgie et notamment l'Eucharistie. Pour commencer ma réflexion sur ce lien entre Eucharistie et Église, je voudrais me référer à un texte de Justin. C'est le milieu du deuxième siècle. C'est un très beau texte, texte connu, j'imagine, mais qui est dans ce qu'il dit. Donc, ce n'est plus nous ne sommes plus dans les temps apostoliques, c'est donc après le Nouveau Testament, mais pas longtemps, quelques décennies. Donc, l'Église est à ses débuts, aussi la liturgie de l'Eucharistie. Et la description de la célébration eucharistique est très éclairante, à mon avis, et montre très bien cette dimension ecclésiale. Je cite le texte, donc il ne date pas. Il ne vient pas d'aujourd'hui, mais du milieu du deuxième siècle. Le jour appelé jour du soleil. Tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, se réunissent en un même lieu. Et on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes. Aussi longtemps qu'il est possible. Donc on a encore beaucoup de temps à ce moment-là. Donc de partout, la ville et la campagne, ce jour-là, tous se réunissent pour faire cela. Écoutez, les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes. Quand le lecteur a fini, il y a donc un lecteur, ministère important, parce que la plupart ne sait pas lire. On n'a pas encore des petits dépliants qui rendent la lecture inutile. Mais quand le lecteur a fini, celui qui préside, il y a un président aussi, celui qui préside, fait un discours pour nous avertir et pour nous exhorter à mettre en pratique ces beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons et nous faisons ensemble des prières, ce sont les prières universelles. Comme l'assemblée se lève, toujours quand elle s'adresse à Dieu lui-même, elle se lève. Ensuite, nous nous levons tous et nous faisons ensemble des prières. Puis, lorsque nous avons fini de prier, ainsi que je l'ai déjà dit, on apporte le pain avec le vin et l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel des prières et des actions de grâce autant qu'il est capable, qu'il en est capable. et le peuple acclame en disant « Amen ». Puis, on distribue et on partage à chacun les dons sur lesquels a été prononcée l'action de grâce. Ces dons sont envoyés aux absents par le ministère des diacres. Les fidèles qui sont dans l'aisance et qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il veut. Ce qu'on recueille est remis à celui qui préside et celui qui vient en aide aux orphelins et aux veuves, à ceux qui sont dans le besoin par suite de maladie ou pour autre cause, aux prisonniers, aux voyageurs étrangers, bref, il vient en aide à tous les malheureux. C'est le jour du soleil que nous, c'est l'appellation qu'on a conservée dans les langues germaniques aussi, Sonntag, Sonntag. Donc c'est le jour du soleil que nous faisons notre réunion, d'abord parce que c'est le premier jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le monde, et c'est parce que ce jour-là est encore celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. La veille du jour de Saturne, on l'avait crucifié, et le surlendemain, c'est-à-dire le jour du soleil, s'étant montré à ses apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ce que nous avons exposé. Fin de la citation. Je voudrais remarquer, c'est mon premier point, il n'est pas très long, ce lien entre l'Eucharistie et un jour. Au début, au commencement, on ne célébrait pas toujours l'Eucharistie à n'importe quel moment. Il était lié à tel moment. Le jour du soleil, le premier jour de la semaine. Depuis les temps antiques, depuis les temps apostoliques, les chrétiens se rassemblent ce jour-là. C'est intéressant de se demander pourquoi. Ce n'était pas parce que c'était le week-end ou un jour de repos. C'était le premier jour de la semaine. C'était un jour de semaine. Le premier jour. C'était parce que c'était le jour de la résurrection. On l'entend bien dans la citation de Justin. Selon les évangiles, c'est le lendemain du sabbat, le matin de Pâques, que le Seigneur apparaît et se montre vivant à ses disciples. Et dans l'évangile de Jean, l'apparition de Thomas a lieu 8 jours après. Il n'est pas là le premier dimanche et 8 jours après. 8 jours après. Donc le jour de l'assemblée, le jour du rendez-vous, il est là. Et donc le dies solis, jour du soleil, devient le jour du Seigneur, le dies domini, le dies dominica. Et c'est ce jour-là que l'Eucharistie est célébrée, c'est ce jour-là que tous, de la ville et de la campagne où ils habitent, ils se rassemblent. Ils font église à ce moment-là. Et donc le sens du dimanche est clair. C'est le jour où le ressuscité convoque ses disciples et les rassemble autour de lui. Je pense que c'est une belle appellation. Le dimanche est le jour du rendez-vous. Parce qu'on ne fait pas, on fait pas église entre nous. C'est parce que nous sommes convoqués. Il y a quelqu'un qui nous appelle et qui nous attend au rendez-vous. C'est le jour du rendez-vous. Et il les convoque pour parler, pour donner sa parole et pour nous inviter à sa table. C'est comme dans le récit des disciples d'Emmaüs. Il parle, leur cœur brûle, devient brûlant, et puis ils le reconnaissent à la fraction du pain. Ce sont les deux moments de l'Eucharistie. Donc c'est toujours, comme on dit, la synaxis. Donc, on se rassemble, ce qui est essentiel. Quand on parle de l'Eucharistie, c'est toujours un rassemblement qui devient assemblée, qui devient église. La synaxis avec toujours ce double objectif, toujours. C'est l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute, C'est le premier commandement, le grand commandement dans toute la Bible. On vient de l'entendre dimanche passé. C'est le grand commandement, le premier. Donc l'écoute, c'est la première chose que Dieu demande, de se taire et d'écouter. Et puis le repas eucharistique avec lui, le Seigneur. C'est lui qui nous invite, c'est lui qui parle, c'est lui qui nous invite et préside à table. Je lis le texte connu de Sacrosanctum Concilium, donc de la Constitution liturgique, le numéro 26, en vertu d'une tradition apostolique, dont l'origine remonte jusqu'au jour même de la résurrection du Christ, l'Église célèbre le mystère pascal chaque huitième jour, qui est nommé à juste titre « jour du Seigneur » ou « dominical ». Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour entendre la parole de Dieu et participer à l'Eucharistie, et faire ainsi mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Citation de la première lettre de Pierre. Aussi le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu'il faut proposer avec insistance à la piété des fidèles, de façon qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation de travail. Les autres célébrations, à moins qu'elles ne soient réellement de la plus haute importance, ne doivent pas l'emporter sur lui, car ce jour-là et cette Eucharistie-là est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Voilà, il faut bien le savoir, si on réfléchit sur l'Église et le lien entre la liturgie, l'Eucharistie et l'Église, c'est la première chose à dire. Le lien avec ce jour-là, le dimanche, qui révèle le caractère fondamental de l'Eucharistie et de la constitution de l'Église, elle est convoquée. Elle est au rendez-vous de celui qui les a invités. Et c'est cette invitation qui la constitue comme ecclésia, comme église. Mon deuxième point, qui sera un peu plus long, mais ce n'était pas très long le premier point, mais fondamental, le rendez-vous. C'est le jour du rendez-vous, l'Eucharistie, c'est le rendez-vous avec notre berger, notre Seigneur, pour l'écouter et être nourri à sa table. Mais je fais un pas en avant. Donc, cette dimension ecclésiale de l'Eucharistie. Je viens de le dire, l'événement même de se rassembler est important. L'Église, donc, le peuple de Dieu est convoqué par le Seigneur. Quel est le sens de ce rassemblement? Tous se réunissent, dit Justin, se réunissent. Ils sont dispersés pendant la semaine. Ils vivent séparément. Ils ne forment pas une communauté monastique. Il faut faire parfois attention avec le mot « communauté ». Ils vivent dans leur famille, ils sont engagés dans le monde, ils ont leur travail. Ce ne sont pas des moines. Mais ce jour-là, ils se rassemblent, ils se réunissent. Quel est le sens de ce rassemblement? Bon, il ne s'agit pas simplement de l'application d'une loi sociologique qui dit que pour la vitalité et la survie d'une organisation, il est important qu'il y ait régulièrement des rassemblements, des rencontres, des initiatives de toutes sortes. Si on crée une association, il faut de temps en temps des initiatives et des rencontres. Sinon, on n'existe pas. Pour l'Assemblée dominicale, je crois qu'il y a des raisons plus fondamentales. Ce n'est pas simplement une question d'organisation et de survie. Mais ce rassemblement a quelque chose à voir avec la constitution même de l'Église. Et Imaginez-vous, par exemple, imaginez-vous, parce qu'il y en a aujourd'hui, hein, qui ne savent plus rien, qui sont totalement étrangers à ce qu'est l'Église ou la foi chrétienne. Imaginez-vous que vous deviez expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne sait rien. Et il faut lui dire ce que c'est, l'Église. Qu'est-ce que vous diriez? Ce n'est pas si facile. Hein? On peut avoir fait beaucoup d'études théologiques, mais c'est à ce moment-là qu'on verra si tu es vraiment intelligent, oui ou non. Faut-il parler tout de suite de Rome, de l'Église universelle et du Saint-Père ou du Vatican? C'est une possibilité. Est-ce qu'il faut dire non, on va rester ici à Bruxelles, on va au Sablon ou à la cathédrale ou au Finistère, les belles églises, le patrimoine religieux, expliquer un peu ce qui est là? C'est une possibilité. Non, il faut. Non, non, c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça le christianisme. Il faut aller sur le terrain, il faut le témoignage d'un chrétien engagé dans la société, engagé dans l'associatif, engagé dans le caritatif, je ne sais pas où, chez les sans-papiers, chez les plus démunis. Il faut. C'est là qu'on voit un peu ce que c'est la vie chrétienne. Ce sont des possibilités, ça dépend un peu de chacun ou de chacune. On pourrait dire aussi, pour répondre à cette question, on pourrait dire aussi, ça c'est difficile à dire. C'est toujours, il faut commencer toujours comme ça, c'est difficile à dire. Mais il faut attendre. Dimanche, je te montrerai quelque chose. Là, tu vas voir quelque chose. Parce que l'Église n'est pas quelque chose qui existe, n'est pas d'abord quelque chose qui est là, une institution qui est là, et qui, par après, peut organiser certaines choses, entre autres des eucharisties ou des messes pour son public. L'Église, je le dirai bien, hein, je sais bien ce que je dis, elle est aussi institution, hein. Mais elle est d'abord... Elle a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Elle est d'abord, je dirais, un événement. Ça se voit dans la citation de Justin. Tout se rassemble ce jour-là. C'est un événement, c'est quelque chose qui se passe. Il faut donc attendre, et à ce moment-là, à l'événement du rendez-vous, alors on peut voir ce que c'est l'Église. Et cet événement, c'est le rassemblement dominical. C'est l'acte même de se rassembler, l'acte même. Et ce pourquoi on se rassemble, qui peuvent montrer ce qu'est l'Église. L'acte même de se rassembler est la raison pour laquelle on se rassemble. Évidemment, je sais bien, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur l'Église, entre autres, sur le ministère pétrinien à Rome, sur l'évêque, je ne sais pas, sur notre patrimoine religieux, etc., etc. Beaucoup d'autres choses à dire. L'Église ne se réduit pas à la seule assemblée dominicale, mais, je me risque dans ce que je dis maintenant, tout ce qu'on pourra et ce qu'on devra encore dire sur l'Église, je pense, trouve là, dans cette assemblée du dimanche et dans ce qui se passe là-bas, son origine et son sens. C'est là qu'on peut sentir, qu'on peut entendre, qu'on peut voir ce qu'est la foi chrétienne. Là, dans son entièreté, dans sa richesse et dans sa beauté. Vous le savez bien sûr, je pense, mais le mot « église » qui vient d'un mot grec « ecclesia » qui n'a jamais été traduit en latin. Dans nos liturgies, il y a encore toujours quelques mots grecs. Le « Kyrie eleison » et « ecclesia ». Ce mot n'existe pas en latin et on ne l'a jamais traduit. Il a un sens politique. Il désigne l'assemblée, de tous les citoyens libres de la ville, de la police, de la cité. Comme on dit encore, on parle encore de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée, dans le sens politique du terme. Et dans la traduction grecque de la Bible, dans la Septante, on désigne avec le mot « ecclésia » le peuple de Dieu convoqué par lui pour recevoir la Torah, la parole de Dieu, le jour de l'Assemblée, comme il est dit dans le livre du Deutéronome, le jour de l'Assemblée, le jour de l'Église, le jour du rendez-vous, le jour où on est constitué peuple de Dieu. Et le prototype de cette ecclésia, parce que ce n'est pas en ce sens l'Église ne commence pas dans le Nouveau Testament, ne commence pas avec Jésus. L'Église existait. Si on lit la Septante en grec, la Bible en grec, on voit bien qu'on parle de la ecclésia de Dieu, l'Église de Dieu, convoquée par lui, pour écouter, pour recevoir sa parole, la Torah. Et donc le prototype de l'Ecclésia, c'est la convocation et le rassemblement d'Israël au mont Sinaï pour recevoir les paroles, la Torah de Dieu. Donc c'est la définition même de l'Église, peuple de l'Alliance, convoqué par Dieu pour écouter, pour recevoir sa parole. Mais c'est surtout, maintenant je passe au Nouveau Testament, c'est surtout quand le peuple se rassemble, nouveau peuple de Dieu. C'est une question à laquelle je ne peux pas entrer dans ce débat-là, le lien entre Israël et l'Église, mais pour l'ecclésiologie, ce lien est fondamental. Mais c'est surtout quand le peuple se rassemble non seulement pour l'écoute de la parole, mais pour participer à l'Eucharistie du Christ. C'est à ce moment-là que ce rassemblement devient ecclésia dans le sens plénier du terme. C'est ça dans le Nouveau Testament, la ecclésia. La communauté convoquée et rassemblée autour de la parole et de la table du Seigneur. Donc ça veut dire que l'Eucharistie n'est pas une des activités que l'Église peut organiser, si je peux m'exprimer comme ça, pour son public. Mais c'est l'événement même par lequel ce rassemblement devient ecclésia, devient église. Et donc, en ce sens, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église, dans ce sens-là. Et ce qui est important, c'est encore toujours mon deuxième point, donc c'est le sens de l'événement de se rassembler, hein, c'est dans la citation de Justin, non pas pour n'importe quoi, mais pour écouter la parole et célébrer avec le Christ l'Eucharistie, son action de grâce, s'associer à lui. Il faut dire que c'est donc l'Église qui célèbre l'Eucharistie, ce n'est pas le prêtre qui célèbre et les fidèles qui assistent, comme on le disait dans le temps préconciliaire. Donc on disait c'est le prêtre qui célèbre et les autres assistaient. C'est, on l'a bien vu dans la citation de Justin, c'est bien dit, donc c'est donc longtemps avant le concile, c'est lui qui préside. Il y a le lecteur, mais il y a celui qui préside. C'est lui qui préside, mais c'est l'Église qui célèbre. C'est l'Église convoquée et rassemblée qui est sujet et acteur liturgique. C'est elle qui écoute la parole, ce n'est pas le prêtre tout seul qui écoute la parole de Dieu. C'est elle qui écoute le prêtre aussi, je suppose, je l'espère. Mais c'est elle qui écoute l'Église, et je veux dire cette Église locale à ce moment-là. Cette ecclésia, c'est elle qui écoute et c'est elle qui s'associe à la grande prière eucharistique du Christ que lui, il préside. Je reviens encore plus tard sur la question de la présidence et sa dimension ecclésiale. Et donc, c'est par l'écoute de la parole et par la célébration de l'Eucharistie, en communion toujours avec le Christ, c'est toujours avec lui, par lui et en lui. Même si on récite le Notre Père, c'est parce que lui, il est avec nous, que nous osons dire Notre Père, parce que sans lui, ça n'irait pas. C'est toujours comme ça. Donc c'est toujours, si je dis maintenant c'est l'Église qui est sujet liturgique, ça suppose toujours l'Église dans le sens dernier du terme, la tête et le corps. C'est lui. Nous nous associons à lui, mais lui s'associe à nous. C'est toujours le même, le Christ total qui célèbre. Donc, c'est par l'écoute de la parole et par la célébration de l'Eucharistie que l'on devient ce à quoi on est appelé à être Église de Dieu. Dans le langage de la constitution liturgique, qui dit « Le culte est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, à savoir par le chef et par ses membres. » C'est le langage utilisé par le Concile. Et donc, ça se comprend, mais d'autres l'ont déjà dit ou le diront, mais pastoralement c'est très important, c'est très important je crois, l'insistance du Concile sur la participation pleine, consciente et active du peuple de Dieu, de l'Église dans la célébration de la liturgie. Je crois que cette participation active est un acquis des plus importants de la réforme post-conciliaire. Mais, je dois dire en même temps, qu'elle n'a pas toujours été bien comprise, parce qu'elle a été comprise surtout dans un sens activiste du terme. Vous voyez bien toutes ces célébrations où il faut absolument faire quelque chose, et le plus grand nombre possible de gens qui doivent faire quelque chose pendant la célébration, et donc déranger tout le monde. Enfin, ça c'est autre chose. Ça n'était pas dans l'intention du Concile. Donc, il ne faut pas prendre cela, cette participation active, consciente. Je viens de le dire, c'est l'Église, c'est le peuple qui est là, et chacun de nous qui s'associe à la grande prière du Christ, et qui écoute avant tout, qui écoute sa parole. Mais aussi, par exemple, quand on ne dit rien, quand on est en silence, quand, par exemple, le président prie ou chante la grande prière eucharistique, ce n'est pas le moment pour l'Assemblée de se reposer un tout petit peu, parce que lui est en train de faire son travail, et puis on va réciter bien ensemble notre Père. Tout le monde s'associe, en silence évidemment, mais c'est un silence absolument actif, participatif. On s'associe, mais c'est lui qui prie à haute voix, justement, là, le symbolique est de grande importance, justement pour montrer que cette prière, ça ne vient pas de nous, c'est lui, le Christ, qui prie, et nous prions avec lui. Ce n'est qu'après cette grande prière que le président s'adresse à la communauté et les invite à prier ensemble avec le Christ, ensemble alors, à haute voix, la prière qu'il nous a donnée. Vous voyez bien la logique de ce qui se passe. Donc tout le monde ne doit pas faire quelque chose, mais tout le monde doit écouter pendant les lectures. Tout le monde ne doit pas lire, ou encore les textes. Non, il faut surtout écouter. Et tout le monde ne doit pas lire des textes ou des prières, mais il faut intérieurement, de plein cœur, s'associer à la grande prière du Christ. Donc tout le monde ne doit pas faire quelque chose. Certes, celui qui préside n'est pas le seul actif, ça c'est vrai aussi. Ça c'est aussi le Concile qui le demande. Il y a différence de ministères et de services à l'intérieur d'une célébration liturgique, comme il y a différents ministères et services à l'intérieur de l'Église, qui s'expriment aussi quand l'Église célèbre la liturgie et l'Eucharistie. Mais le Concile le dit de façon très très sage, que chacun y fasse tout ce qu'il est appelé à faire et rien de plus. Ça suffit amplement alors. Et tout le monde est à l'aise. Mais la participation active ne concerne pas seulement ces différents services et responsabilités à accomplir lors d'une célébration. C'est donc quelque chose qui concerne toute l'Assemblée, tout le peuple de Dieu, et pas seulement ceux qui font quelque chose. Et le Concile dit, la Mère Église désire fortement que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu du baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple que Dieu s'est acquis. C'est l'Église qui célèbre. C'est le prêtre qui préside. C'est l'Église qui célèbre, qui participe de façon active, consciente et pleine à l'acte liturgique, à l'écoute de la parole et s'associe à la grande prière eucharistique du Christ. C'est l'Église qui célèbre, j'ajoute encore un point, c'est toute l'Église qui célèbre. Toute l'Église. C'est aussi dans la citation de Justin, tous se réunissent. Ils ne restent pas dans leur village. Ils ne restent pas dans leur coin. Ils ne disent pas, non, ça n'est pas ma sensibilité. Moi, j'ai une autre spiritualité, j'ai une autre sensibilité. Là, ce sont des pour personnes âgées, là, pour les jeunes, etc. Tous, toutes. C'est l'Église qui les célèbre, mais c'est toute l'Église. Et vous vous rappelez, au cours des années qui suivaient le Concile, c'est une question pastorale qui me préoccupe encore toujours, hein, dans la formation des unités pastorales, il faut... Mais au cours des années qui suivaient le Concile, on a augmenté, vous le savez bien, le nombre des célébrations le dimanche. Et le samedi soir aussi. La veille. On l'a certainement fait, c'est vrai, dans un souci pastoral réel. On voulait donner au plus grand nombre la possibilité d'assister à la messe. Et à ce moment-là encore, on supposait que la majorité de la population était chrétienne ou qu'elle devrait l'être. On savait bien que ce n'était pas le cas, mais à ce moment-là, on disait encore, ça devrait être comme ça. Maintenant, on va dire, oui, nous acceptons, nous habitons une société sécularisée. On connaît entre-temps le résultat de cette augmentation du nombre des célébrations. Ça a eu des avantages, je ne vais pas le nier, et je dois être bref. Mais le résultat, petit à petit, devient maintenant des Eucharisties sans assemblée. Sans assemblée significative, sans assemblée digne de ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire digne de ce nom? Qui est vraiment une ecclésia. Parce que, il y a quand même une grande différence entre une ecclésia et un petit club religieux, si je me peux permettre de le dire. Un petit groupe, on est bien, c'est très convivial, on se connaît, tout le monde connaît tout le monde, et bon, on célébrait entre nous. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que je viens de dire dans mes réflexions, peut-être un peu théologiques, mais la citation de Justin est très révélatrice. Tous dans la ville et la campagne, se réunissent dans le même lieu pour faire la même chose ensemble. Donc, le résultat a été des Eucharisties, vous me suivez, hein, des Eucharisties sans Église, sans Ecclésia, digne de ce nom, des petits groupes. Parce que pour célébrer l'Eucharistie, il ne faut pas seulement avoir un bâtiment et un prêtre. Et un enfant de cœur, peut-être. Mais une assemblée, c'est l'Église qui célèbre. Il y a encore une autre raison pour laquelle cette augmentation du nombre de célébrations pose problème. Parce que l'Eucharistie, je viens de le dire, est synaxis, donc le rassemblement. Elle ne divise pas, elle rassemble. L'Eucharistie fait l'Église, elle fait aussi l'unité de l'Église. Comme le dit le texte de Justin, le jour appelé jour du soleil, tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, se réunissent en un même lieu. On se rassemble donc dans un même lieu. On ne se rassemble pas plusieurs fois pour la même chose dans ce même lieu. Et on ne divise pas non plus la communauté en différents groupes, vu l'âge ou la sensibilité spirituelle. Il y a dans l'Église différentes communautés locales, différentes spiritualités et sensibilités, différentes présences dans la société. Mais le dimanche, maintenant je regarde, je sais bien que ça ne correspond pas à la pratique actuelle, mais je regarde un peu vers le futur, vers l'avenir qui est devant nous. Et petit à petit, dans une unité pastorale où ce sera dans quelques années, il faut prendre du temps, lentement, on verra bien qu'il y a des églises principales et d'autres. Et c'est là, dans ces églises, que tous. Mais je suppose qu'il y a encore d'autres petites communautés. Là où on respecte les sensibilités, les différentes spiritualités, les différents charismes. Mais c'est mon rêve. Mais le dimanche, tous se rassemblent autour de la même parole et de la même table. C'est là que nous devenons chaque fois à nouveau disciples du Christ, frères et sœurs, enfants du même Père, capables de prier avec le Christ la même prière qu'il nous a donnée. C'est comme le dit dans le texte latin, hein, Preceptus salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Nous osons dire, nous osons, parce que de nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais nous sommes devenus ses frères et ses sœurs par le baptême, par l'écoute de la parole et par notre participation à cette même table qui est sa table. Nous sommes devenus enfants de Dieu, frères et sœurs du Christ, temple de l'Esprit. Pour la vitalité même de l'Église et pour être sacrement et signe visible de l'amour de Dieu au cœur du monde, il ne faut pas se disperser le dimanche, mais justement se rassembler dans l'unité de la même foi et de la même Eucharistie. Et encore une petite remarque pour le deuxième point, donc c'est l'importance du rassemblement, l'événement qui constitue l'Église, que c'est l'Église qui célèbre, que c'est toute l'Église qui célèbre, et elle ne célèbre pas une fois pour toutes. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais on est toujours baptisé une fois pour toutes. On est confirmé une fois pour toutes. Une fois pour toutes, vous avez reçu la marque. Vous êtes marqué de l'Esprit de Dieu, même si vous perdez la foi. Vous êtes marqué pour toute votre vie. Et l'Eucharistie est elle-même aussi sacrement d'initiation, mais pas une fois pour toutes. Tous les dimanches, chaque fois à nouveau. Et donc, je reviens encore une fois sur le caractère dynamique et événementiel de l'Église. Je ne nie pas, évidemment pas, je ne serai pas ici, que l'Église est une institution. C'est évident. Et quand je dis « elle est institution », je prends le mot « institution » dans le sens théologique du terme. Ce n'est pas simplement une affaire organisationnelle, comme toute institution est organisationnelle. Elle est... Deus, comme on dit en latin, deus divinus, ça veut dire elle est voulue par Dieu. Elle trouve son origine dans la volonté et dans le plan du salut de Dieu. C'est Dieu qui a voulu son Église. C'est lui qui a convoqué son peuple. C'est lui qui l'a appelé. L'Église, c'est peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, peuple de sa prédilection. Non pas pour tourner le dos au monde, mais justement comme signe de son amour pour le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté l'Église, qui est là et qui existe. Et de l'autre côté, toutes les activités que cette institution peut organiser et toutes les initiatives qu'elle peut prendre, entre autres, par exemple, l'Eucharistie. Il n'y a pas d'un côté l'Église et de l'autre l'Eucharistie. C'est, je viens de le dire, c'est par l'écoute de la parole et la célébration de l'Eucharistie qu'un rassemblement devient Église. C'est ce que saint Augustin disait quand il distribuait le pain eucharistique, « Recevez ce que vous êtes, corps du Christ ». D'ailleurs, c'est le sens des épiclèses dans la liturgie, donc les épiclèses qui a l'épiclèse, première épiclèse sur les dons eucharistiques et l'autre sur le peuple de Dieu qui a une dimension ecclésiale. Donc l'épiclèse sur l'assemblée elle-même, justement, afin qu'elle aussi, comme on a prié, invoqué l'Esprit de Dieu pour faire de ce pain et de ce vin le corps et le sang du Christ, que ce même esprit descende sur l'assemblée pour qu'il fasse de nous le corps vivant du Christ. Vous connaissez bien les prières eucharistiques. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Ou quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Voilà, c'était mon deuxième point. C'est donc l'Église qui célèbre, c'est toute l'Église. Et chaque fois à nouveau, pas une fois pour toutes. Je dis encore quelque chose sur le ministère de la présidence, aussi bien dans l'Église que dans l'Eucharistie. Parce que là non plus, ce n'est pas par hasard. Celui qui préside l'Église, c'est celui aussi qui préside l'Eucharistie. C'est évident, parce que c'est là, dans la célébration de l'Eucharistie, que l'Église est finalement ce qu'elle doit être. Vous le savez bien que ça aussi, depuis les temps apostoliques, l'Église a toujours tenu, même dans la citation de Justin, à l'importance de la question de la présidence. Elle n'a jamais dit, bon, ça n'a pas d'importance si quelqu'un y met le voix. Il peut présider. Ou s'il a les talents, hein, quelqu'un qui sait présider. On dit ça parfois, celui-là, il sait présider, il a les allures d'un président. Ce n'est pas ça qu'il y a. Il ne s'agit pas de ça. On a confié cette présidence uniquement à celui qui, par l'imposition des mains et l'invocation de l'Esprit-Saint, a reçu le sacrement de l'ordre. C'est ainsi qu'il devient sacrement, c'est-à-dire signe visible et efficace, de celui qui seul préside l'Église et toute assemblée eucharistique. Et là aussi, on voit très bien le lien entre l'Église et l'Eucharistie. Je viens de le dire là, combien de fois que l'Église est peuple de Dieu, que nous écoutons sa parole, qu'il nous a convoqués, que nous sommes peuple de l'Alliance, que nous vivons avec Dieu, que nous sommes ses enfants, que nous sommes frères et sœurs du Christ. Mais la question se pose, est-ce que nous avons accès à Dieu? Dans une des prières eucharistiques, on le dit clairement, « Toi qui habites dans la lumière inaccessible. » Et je pense à cette question, est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous avons accès à Dieu? Je pense que la première réponse qu'il faut dire, qu'il faut donner, c'est non. De nous-mêmes, nous n'avons pas accès à Dieu. De nous-mêmes, nous sommes sans Dieu. Nous sommes des pauvres pécheurs. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est une citation du Nouveau Testament. Et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Personne ne l'a vu et nul ne le connaît. Mais celui qui le connaît, le seul qui le connaît, le seul qui a accès à Dieu, le seul qui est, dans le prologue de saint Jean, qui est auprès de Dieu, qui est tourné vers Dieu, le seul, le Fils unique, unique, c'est lui qui nous l'a révélé. Et c'est le message central aussi de l'Épître aux Hébreux. Par le don de sa vie, le Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Au moment de la mort de Jésus, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Et comme notre pasteur et grand prêtre, il intercède continuellement pour nous et nous entraîne avec lui dans cette alliance et cette amitié avec Dieu. Si nous avons accès à Dieu, si nous pouvons entrer en alliance avec lui, si vraiment nous écoutons sa parole et nous sommes invités à sa table, si nous sommes peuple de Dieu, Église de Dieu, c'est par le Christ. C'est avec lui et en lui. Cela veut dire que celui qui préside l'Église et l'Assemblée eucharistique représente toujours un autre. Il le fait, comme on le dit en théologie, in persona Christi. C'est le sens du sacrement de l'ordre. Le prêtre représente sacramentellement le Christ, mais il faut dire, je dis sacramentellement, non pas réellement, je m'explique, en réalité, c'est le Christ lui-même qui préside, mais représenté sacramentellement par celui qui préside le prêtre. Il ne s'agit donc jamais de nos messes, de ma messe, ou de nos célébrations, ou de nos eucharisties. Je sais bien que l'Eucharistie est célébrée dans des lieux et des temps différents, mais, c'est ça que je voulais dire, nous participons toujours à l'unique Eucharistie que le Christ célèbre éternellement devant son Père. C'est lui qui, par le don de sa vie, a ouvert une fois pour toutes l'accès à Dieu, lui qui est entré dans le Saint des Saints, où il intercède pour nous. C'est en ce sens qu'il est en vérité le grand prêtre d'une alliance nouvelle. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une image de l'authentique que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, c'est-à-dire là où Dieu habite. C'est là qu'il est entré, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. C'est ça l'image, comme le grand prêtre dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, se trouve devant Dieu pour intercéder pour le peuple, c'est lui qui est entré, non pas dans l'image, mais dans la réalité qui est devant Dieu et qui intercède, qui prie en action de grâce le Père en faveur de nous, notre grand prêtre. Voilà comment le Christ nous est décrit comme celui qui est toujours auprès de Dieu, devant la face de Dieu, où il célèbre l'Eucharistie et intercède pour nous. Et si on dit le Christ, il s'agit aussi de son corps, qu'est l'Église. S'il célèbre l'Eucharistie, lui, le Christ, c'est en communion avec son Église. Et si elle célèbre l'Eucharistie, c'est en communion avec cette Eucharistie dans le ciel, si je peux m'expliquer pour ça. Donc, auprès de Dieu, non pas en image, mais en réalité. C'est lui qui nous mène vers le Père. C'est dire que l'Eucharistie ne constitue pas seulement l'Église locale, elle ne garantit pas seulement la communion des chrétiens réunis en ce lieu, elle nous fait communier à toute l'Église du Christ qui célèbre avec lui, ou plutôt lui qui célèbre avec nous, avec toute son Église dispersée sur la terre et glorifiée dans le ciel. C'est la raison pour laquelle dans le canon de la messe, le nom de l'évêque et de l'évêque de Rome est toujours mentionné. On ne peut célébrer qu'en communion avec toute l'Église. Ce ne sont pas des prières d'intercession à ce moment-là, mais surtout expression de notre communion ecclésiale. De même que l'Eucharistie est célébrée en communion avec Marie, les apôtres et tous ceux et celles qui nous ont précédés. Et je dirais même, et je pense déjà à la belle lecture, la première lecture de la fête de la Toussaint, qui est toujours une lecture, enfin, chaque année à nouveau, quand on entend cette lecture, c'est, enfin, Là, je parle maintenant en mon nom propre, mais c'est incroyable ce qui est lu là. Si quelqu'un, s'il y a vraiment un lecteur à ce moment-là dans l'assemblée qui sait lire ce texte et proclamer ce texte, c'est quelque chose d'inouï, mais c'est cette grande foule devant le trône et devant l'agneau. Cette foule que personne ne peut dénombrer, immense. Et donc, même si on est dans une petite assemblée, à cause des circonstances, on célèbre toujours, toujours l'Eucharistie en communion avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer de toute nation, race, peuple et langue. J'ai encore 5 minutes. Je vais résumer, j'avais encore un dernier point, un quatrième point, pour montrer le lien entre l'Église et l'Eucharistie. Je le résume pour avoir mon temps pour la conclusion, mais je voulais simplement dire, si on voit qu'est-ce qui est au cœur de l'Église, qu'est-ce qui fait de nous l'Église de Dieu, ce sont deux choses. C'est l'écoute de la parole de Dieu et la vie en communion avec Dieu, l'alliance. C'est l'écoute et l'alliance. Dans notre vie chrétienne, dans la vie de l'Église, ce sont les deux choses les plus importantes qui nous constituent comme peuple de Dieu. Écouter, c'est le premier, c'est le grand commandement. Et en même temps, vivre dans l'alliance avec Dieu, parce que celui qui partage sa vie avec Dieu devient aussi une nouvelle créature, comme le Christ. Quand on a accès à Dieu une fois et qu'on vit en communion avec lui, oui, la vie change fondamentalement. Et ça vaut aussi pour l'Eucharistie. Ce sont les mêmes, les deux tables de l'Eucharistie. C'est l'écoute de la parole et la célébration de l'alliance. Parce que la parole ne suffit pas. C'est comme entre nous, pour l'amour, l'amitié entre les hommes, les paroles ne suffisent pas. Il faut des gestes, il faut passer à l'acte. Il faut dire ce qu'il est incapable de dire et donc se donner, c'est la même chose. Dans notre vie comme chrétien, dans notre vie chrétienne, c'est l'écoute de la parole de Dieu et la réponse dans nos actes. Une vie partagée avec Dieu, mais aussi dans l'Eucharistie. C'est Dieu qui nous parle, mais qui se donne. C'est le Dieu, c'est la parole et l'alliance. C'est ça que je voulais dire, mais je l'ai dit, enfin, j'en ai fait un petit résumé. Mais pour ne pas abuser de votre patience, en guise de conclusion, je voudrais quand même encore dire ceci. Il y a donc un lien intime et inséparable entre l'Église et l'Eucharistie. Il n'y a pas d'Église sans Eucharistie, c'est elle qui fait l'Église, mais il n'y a pas d'Eucharistie non plus sans Église, c'est elle qui la célèbre, en communion avec le Christ. Et donc, pour un vrai renouveau de l'Église, il faut un renouveau liturgique, parce que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Si on cherche une réforme de l'Église, un renouveau de l'Église, c'est par là qu'il faut commencer. Mais, je dirais en même temps, pour un vrai renouveau liturgique, la liturgie ne suffit pas. Il faut aussi un renouveau de l'Église elle-même, vous voyez. C'est très beau d'avoir de belles célébrations, mais s'il n'y a pas derrière une vraie foi, s'il n'y a pas des chrétiens, c'est beau les lectures, on chante très bien. Ce sont des célébrations extraordinaires, d'une beauté inouïe, mais s'il n'y a pas. Donc il faut les deux. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Mais il faut avoir une église pour célébrer l'Eucharistie. Donc il faut les deux. Si l'Eucharistie est source et sommet de toute l'Église, de toute vie dans l'Église, l'Eucharistie présuppose donc autre chose qu'elle-même. Elle présuppose justement la vie chrétienne et une vraie vie ecclésiale. Voilà pourquoi nous ne découvrirons l'importance de l'Assemblée eucharistique que dans la mesure où notre pastorale sera centrée sur ce qui est vraiment l'unique nécessaire Et l'unique nécessaire, c'est que ce que Jésus disait à Marthe, qui se plaignait de Marie. C'est la meilleure part, a-t-il dit. C'est la meilleure part. C'est elle qui écoute la parole de Dieu et qui est auprès du Seigneur. C'est elle. Donc, c'est la meilleure part, l'écoute de la parole de Dieu et une vie selon l'Évangile en réponse à cette écoute et en fidélité à cette parole. Et je termine avec quelques questions. Et ici, je m'engage en tant que pasteur. Peut-être dans notre pastoral habituel, nous sommes très occupés par toutes sortes de choses, mais pas assez par ce qui est au cœur même de l'Église et de sa mission, c'est-à-dire la recherche, enfin, l'écoute de la parole de Dieu et la recherche d'une vie en alliance avec Dieu, une vie chrétienne, une vie selon l'Évangile. Faire découvrir la beauté de l'Évangile, aider et accompagner des chrétiens à écouter la parole de l'Évangile, les aider à accompagner, à vivre selon cet Évangile, dans la recherche d'une vie plus simple, plus authentique, plus fraternelle, plus solidaire. En un mot, comment être chrétien aujourd'hui, être disciple aujourd'hui dans notre société? Donc ce que veut dire... Le vrai renouveau liturgique présuppose toujours aussi un vrai renouveau de vie ecclésiale et de vie chrétienne. L'un ne va pas sans l'autre. On ne résout pas tous les problèmes liturgiques avec la seule liturgie. C'est ça que je veux dire. Est-ce vraiment notre priorité pastorale? Aider les chrétiens dans leur vie personnelle, familiale et professionnelle? Et aider nos communautés dans cette recherche d'une vie chrétienne, d'une vie plus spirituelle, vie d'écoute et de prière? Est-ce que nous les accompagnons vraiment dans la recherche d'une vie plus évangélique? Est-ce que vraiment notre souci premier, est-ce que c'est cela, notre souci premier en pastorale? Et ce n'est qu'une telle pastorale qui nous fait voir l'importance indispensable de l'Eucharistie. Ce n'est pas simplement la beauté des chants qui va nous convaincre de l'importance de l'Eucharistie. Car l'Eucharistie est sacrement d'initiation, elle initie précisément à cette vie nouvelle selon l'Évangile. Notre pastorale ne doit pas seulement être restructurée, ça c'est la grande partie de mon temps. Elle doit aussi être repensée à partir de ce qui est au cœur de l'Eucharistie et de l'Église, c'est-à-dire l'écoute de la parole de Dieu et la joie d'une vie en communion avec lui. Cette parole et cette vie nouvelle, nous est donnée dans le Christ Jésus. C'est lui en personne qui constitue le lien inséparable entre l'Église et l'Eucharistie. Je vous remercie de votre attention.
Monseigneur, on n'avait même pas osé rêver à ce lien entre, d'une part, une théologie solide et, d'autre part, une pastorale qui en fait se fait théologie, mais avec un désir d'une telle proximité de ce qui se vit au niveau événementiel. Merci vraiment beaucoup. Comme chaque fois, je ne sais pas si je peux publiquement vous demander, est-ce qu'il y a un embryon de texte ou d'article ou de... Enfin, nous en... Éventuellement, nous pourrions le joindre aux autres notes. Merci beaucoup. Donc, vous le trouverez sur le site sjoseph.be avec les autres conférences, si vous me permettez, du reste. Et alors, donc, nous allons faire le break d'usage pendant 5-6 minutes et ne traînons pas trop de manière à avoir terminé pour 22 heures précises.